France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Il disait aimer le Gréco, les poètes mystiques, mais pas Haydn, Mozart et Beethoven, et d'ajouter « Qui sait lire et écouter le silence me comprendra ». Personnalité singulière et compositeur attachant que Federico Mompou à Barcelone à la fin du 19e siècle est aujourd'hui encore moins connu que ses cadets et compatriotes Albéniz, Granados et Falla. Mompou est pourtant un artiste qui sait en quelques notes aller à l'essentiel, s'adresser directement au cœur. Je vous propose de rencontrer ce compositeur secret et sensible en compagnie de Jérôme Bastianelli, mon invité, qui vient de lui consacrer une biographie. Federico Mompou de Jérôme Bastianelli, Schacht Sud. Federico Mompou au piano, interprété de Federico Mompou, la première des impressions intimes, intitulée Les Plaintes. Bonjour Jérôme Bastianelli.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes directeur général du musée du Quai Branly et collaborateur régulier du magazine Diapason et l'auteur de cette biographie du compositeur Federico Mompou. Compositeur espagnol, espagnol ou catalan d'ailleurs, que doit-on dire?
C'est un vrai sujet, oui. Ça. Je pense qu'il vaut mieux dire catalan.
Pour éviter les débats, d'accord. Donc né à Barcelone en 1893 et mort en cette même ville en 1987. Vous lui consacrez donc un livre articulé en brefs chapitres. Est-ce que c'est en référence à la musique plutôt laconique du compositeur?
Oui, il m'a semblé qu'effectivement, comme c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la concision, oui. Mompou, que traiter sa biographie en petits chapitres de 2-3 pages maximum était une manière de lui rendre hommage.
Donc vous lui proposez un parcours donc chronologique hein, de la biographie de ce compositeur. Finalement, une vie assez tranquille. Il n'y a pas vraiment d'événements fracassants qui ont bousculé sa vie.
Non, je pense que c'était pas dans le caractère. Il n'aimait pas beaucoup les fracas, je crois, Federico Mompou. Donc, il a une vie effectivement classique de quelqu'un qui découvre la musique dans une famille bourgeoise de Barcelone et qui du coup a envie d'aller faire ses études à Paris, puisque Paris était à l'époque vraiment le lieu où il fallait venir quand on voulait se destiner à une carrière artistique. Donc, ce qu'il finit par faire, mais comme il est très timide, ben finalement, il n'en tire pas tout à fait tous les fruits qu'il aurait pu espérer. Il avait une recommandation de Granados pour rencontrer Gabriel Fauré, directeur du conservatoire. Et puis, en fait, il est trop timide, il attend trop longtemps dans l'antichambre de Fauré. Et donc, la pression est telle qu'il s'en va avant d'avoir vu Fauré. Bref, enfin, il reste un petit peu à Paris, il revient après pendant la guerre à Barcelone. Et puis,
après, il passera quand même une vingtaine d'années.
Oui,
à Paris,
après, il retourne dans l'entre-deux-guerres. Il est à Paris assez longuement. Il va fréquenter quelques salons, un peu malgré lui. Il va être ami avec la plupart des compositeurs du groupe des Six, avec Poulenc. Il va avoir une toute petite vie mondaine. Il va écrire pas mal aussi pendant cette époque-là, puis retourner à Barcelone après. Et, voilà, comme symbole du fait que c'était quelqu'un qui prenait son temps, il va rencontrer une jeune femme en 41, il l'épousera plus de 15 ans plus tard.
Le temps d'être vraiment certain. Voilà. Jérôme Bastianelli, on imagine Vous l'avez évoqué, difficilement quelqu'un comme Mompou, que vous décrivez comme plutôt timide, réservé, qui aimait pas les mondanités, justement dans ce Paris d'entre-deux-guerres qui était justement au contraire effervescent, foisonnant d'une activité intellectuelle et mondaine. On aurait bien aimé quand même savoir, quand il a rencontré Ravel, Bartok, ce qu'ils ont pu se dire. Est-ce qu'il existe des témoignages de ces
Alors,
rencontres?
Il existe un témoignage d'une rencontre avec Ravel, donc que j'évoque d'ailleurs dans cet ouvrage. Mompou avait une certaine fascination pour, enfin, comme tout à fait naturel d'ailleurs, pas normal, pour l'œuvre de Ravel. Et il se promène dans Paris, il discute un petit peu de leur art respectif. Et en fait, pour arriver sur un constat un petit peu de désaccord, puisque Mompou avait une vision très instinctive de la composition de l'art de créer des nouvelles musiques, et pour Ravel c'était beaucoup plus au contraire beaucoup plus intellectuel, et chaque détail devait être pensé, alors que Mompou était quelqu'un, il disait ma musique ce sont mes mains, parce que c'était quelqu'un qui composait essentiellement au piano, c'était d'abord un pianiste, quelqu'un qui comme un sculpteur dans la glaise mettait les mains dans le piano pour trouver des nouvelles sonorités.
Jean-François Esser interprétait de Federico Mompou un extrait du cycle Suburbis, l'homme à l'Ariston, l'Ariston étant une espèce d'orgue de barbarie, donc un écho de la musique des quartiers populaires de Barcelone, Jérôme Bastianelli, c'est ça?
Oui, une des premières inspirations musicales de Mompou a été effectivement la vie urbaine dans les faubourgs et sur les plages de Barcelone. Il se promenait, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup se promener, et donc quand il se promenait, il écoutait les bruits, et puis il rentrait, et il essayait de retranscrire au piano, ou en tous les cas, à défaut de retranscrire, de voir quels échos sur le piano ces souvenirs musicaux auditifs évoquaient.
Mais on ne saurait dire que la musique de Mompou est descriptive, c'est vraiment pas son objet.
Non, c'est pas... Parfois, il y a des tentatives, il met des titres plutôt descriptifs, il va essayer de décrire des fontaines. Il y a quand même un aspect qui est un peu descriptif, c'est toute l'influence que vont avoir sur lui les cloches, parce qu'il vient d'une famille de fondeurs, et il a essayé de retranscrire, et je crois avec un certain succès dans certaines de ses pièces. Enfin, il a toujours été fasciné par la sonorité des cloches qu'il a essayé de transcrire au piano, d'où ce goût pour les longues résonances, les longues vibrations, les accords lents dont on essaye de faire vivre jusqu'à vraiment la dernière seconde. Et ça, je crois que c'est assez réussi dans le genre descriptif.
Il y a un autre compositeur, d'ailleurs, qui était fasciné par les cloches, né, je crois, exactement 20 ans avant lui, Rachmaninoff. Mais alors, leur musique, non.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Autant la musique de Rachmaninoff est très, très. Les partitions sont très noires, signe note.
Oui, alors que mon pouls, au contraire, il était content quand
il élaguait. Voilà. Et alors, justement, quelques considérations sur le style de mon pouls. Vous avez évoqué, effectivement, cette retranscription de la sonorité, du tintement, donc des cloches. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sa musique n'était pas clairement moderne, il comprenait pas l'engouement pour la musique de l'école de Vienne. Comment est-ce que c'était vraiment un indépendant.
C'est quelqu'un d'être vraiment à part, quoi, qui a voulu construire sa propre grammaire, son propre langage musical. Enfin, c'est le cas d'autres compositeurs, bien évidemment, mais je crois que chez Monpouls, ça se ressent assez vite. Et d'ailleurs, on a écouté tout à l'heure Les Impressions Intimes. C'était une de ses premières œuvres. Mmh. Il avait même pas 20 ans, quoi. Ouais. Et dès cette époque-là, il a déjà trouvé les bases. Alors après, il va évidemment raffiner tout cela, mais il a déjà trouvé les bases de son vocabulaire. Et c'est quelque chose qui est pas si différent de ce qu'il va écrire 20 ans plus tard. Et donc, c'est un jeu sur les accords, sur des délicieux frottements de notes adjacentes. Enfin, c'est une alchimie assez originale qui va lui permettre d'être entre les deux, quoi. Qui est pas complètement consonant, mais qui est pas non plus très dissonant.
Ouais. Et ce qui est étonnant également, Jérôme Bastianelli, dans la composition de Monpouls, c'est que certains cycles sont étalés sur de très nombreuses années. Je pense pas aux préludes, aux chants et danses, aux paysages qui s'étalent parfois sur 10, 20,
oui,
20 ans.
Oui, c'était, voilà, il l'écrivait quand il avait envie, et alors il commençait un cycle, les chansons et danses, vous l'avez dit, les préludes, la Musica Cagliada, il va écrire 4 cahiers sur plus de 15 ans. Voilà, c'était typique de son rythme de travail, le fait qu'il travaillait aussi beau. Puis, on a aussi découvert aussi beaucoup d'œuvres qui n'avaient pas été éditées, on les a redécouvertes à la fin des années 2000, des brouillons, des esquisses, des choses parfois beaucoup plus abouties que de simples esquisses d'ailleurs. Donc voilà, c'était quelqu'un qui prenait son temps.
Il prenait son temps, il se murait même parfois dans le silence, parce que vous le rappelez qu'entre 1930 et 1937, il n'écrit pas une note. Mais de quoi vit-il ?
Oh ben il a fait quelques petites tentatives industrielles qui n'ont pas été très très couronnées de succès.
Par les Esquimaux,
il a voulu introduire les Esquimaux, les glaces Esquimaux en Espagne. Ça n'a pas duré très longtemps. Oh, il vivait, ses parents avaient un peu de bien et voilà, il a eu cette chance là de pouvoir.
Mais on imagine qu'il avait un train de vie de façon assez modeste.
Oui, il avait un train de vie très modeste. C'était pas quelqu'un qui aimait le luxe, c'est même pas quelqu'un qui aimait les voyages, Donc il arrivait à subvenir en éditant un petit peu des partitions, mais ça ne devait pas lui rapporter beaucoup par rapport à ce que sa famille pouvait lui donner.
soprano Virginia Paramon, l'orchestre de chambre du Théâtre Lliure de Barcelone, dirigé par Josep Pons. C'était extrait du Combat del Somni, le combat du rêve de Federico Mompou, d'Amunt des Tous, c'est-à-dire au-dessus de toi, rien que des fleurs. Jérôme Bastianelli, c'est vraiment enfin, bouleversant ce qu'on vient d'entendre. On se demande pourquoi
c'est pas plus souvent joué.
Ben oui, exactement. Ça, j'espère que votre livre ouvrira des horizons et des perspectives aux musiciens, aux interprètes qu'aux producteurs. Deux choses, justement, à propos de l'œuvre qu'on vient d'entendre. On a compris que Mompou composait essentiellement pour son instrument, puisqu'il était pianiste, donc pour le piano. Le rapport à l'orchestre et le rapport à la voix. Parlons de la voix tout d'abord.
Alors, effectivement, la plus grande partie de ses compositions est écrite pour piano, et ce qui vient juste après, c'est piano et voix. Il a écrit un certain nombre pas mal de mélodies, avec tout un tas aussi d'inspiration, de la poésie catalane, de la poésie espagnole, aussi des comptines. Il aimait beaucoup écrire, il a écrit des petites comptines sur des poèmes qu'il avait lu en France. Et puis après, la dernière partie de sa vie, une inspiration plus mystique lors de la découverte des textes de Saint Jean de la Croix. Tout ça a donné lieu à la fois à des pièces pour piano et voix, et puis des oratorios ou des pièces pour chœur, et au chœur a cappella aussi. C'est un pan important. Par contre, l'orchestre, c'est quand même part très réduite, la part de l'orchestre dans son... On a écouté une orchestration qu'il a faite lui-même, c'est très rare.
Parce qu'au départ, c'était une mélodie pour
piano et voix.
Qu'il a lui-même orchestrée.
Voilà, il la compose en 42 et l'orchestration a lieu plus de 20 ans plus tard, enfin, suivant la bonne méthode de mon pouce, ne nous pressons pas.
Et alors, dans le choix des textes et peut-être des références à certains airs, est-ce que... Le folklore, la musique populaire, a vraiment innervé la musique de Mompou. Ça reste très
pour les mélodies, ça me paraît pas forcément flagrant parce que il s'inspire aussi de Paul Valéry à la fin de sa vie. Donc là, les poèmes de poètes catalans, mais qui sont pas particulièrement folklorique. En revanche, pour la musique pour piano seul, oui, il y a une influence du folklore catalan. Il a retraduit avec son propre langage ce qu'il entendait. On a parlé des rues, mais ce qu'il entendait aussi dans les villages, dans les scènes de danse, quand il allait se promener.
Est-ce qu'il en avait conscience? Est-ce qu'il le revendiquait?
C'était pas quelqu'un qui revendiquait particulièrement, donc je pense pas qu'on puisse utiliser ce verbe. En revanche, il en avait confiance. Il a même, dans les chansons et danses, qui sont sans doute son œuvre la plus catalane, qui s'inspire elle vraiment de manière très explicite, puisqu'il reprend dans certains thèmes de mélodies populaires catalanes. Eh bien, il le fait toujours avec sa manière. Quoi, c'est pas juste une transcription. C'est pas vraiment le même travail qu'un Bartok allant faire une espèce d'anthologie des mélodies. C'est vraiment une transformation. Il le prend et puis il prend un thème très connu de ses contemporains, mais il va le traiter à sa sauce. Et puis il va leur montrer aussi que c'est pas si compliqué que ça d'en inventer d'autres, puisque dans certaines chansons et danses, il va faire du catalan, enfin aussi catalan que aussi autant, enfin essayer d'être aussi authentique que les autres mélodies, alors que c'est des choses qui sortent de son imagination. Et on se rend pas compte, nous, quand on connaît pas extrêmement bien le folklore catalan, on les écoute toutes et on est incapable de dire laquelle existait avant que Mompou arrive, et laquelle a été inventée par lui.
Et est-ce que, vous l'avez dit, c'était pas quelqu'un qui revendiquait, on l'imagine effectivement, cette personnalité assez discrète et timide, est-ce qu'il laisse des écrits sur lesquels on peut quand même essayer d'appréhender sa personnalité dans son entier?
Il laisse quelques carnets dans lesquels il écrit et il réfléchit un petit peu à son art, et avec ses considérations où il disait que il symbolisait son esthétique par le verbe recommencer. Lui, ce qu'il disait, il faisait une comparaison avec la peinture abstraite, et il disait voilà, on arrive de plus en plus à des choses très très sobres, on fait maintenant un carré blanc sur fond blanc, et après, une fois qu'on a fait ça, on est bien obligé pour continuer de faire autre chose, de réinventer de nouvelles règles esthétiques. Et c'était cet objectif qui s'était fixé en musique, en disant voilà, maintenant on est arrivé, la musique est arrivée dans une espèce de conclusion, il faut recommencer, et je propose de recommencer à partir de la grammaire que j'ai inventée.
Arkady Volodos interprétait le numéro 22 du La Musica Caliada de Federico Mompou, Jérôme Bastianelli. Quelle musique extraordinaire avec si peu de notes.
Voilà, c'est, je pense, une forme d'archétype de l'art de Mompou, d'arriver à nous émouvoir et aussi profondément avec aussi peu de notes, là, pour le coup. C'est vraiment très... Quand on voit la partition, il n'y a rien. Quoi. Et pourtant, c'est un effet émotionnel
instantané.
Surtout quand c'est aussi bien joué que
par Volodos, exactement. Et en plus, magnifiquement enregistré. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait traduire, d'ailleurs, Musica Caliada?
Alors, c'est un paradoxe, parce que ça veut dire la musique qui se tait, donc évidemment...
On s'en approche, quand même. Hein.
Donc, c'est effectivement... il disait vouloir construire une sorte de voûte dans laquelle chacun pourrait faire résonner ses propres impressions, ses propres introspections. C'était une œuvre comme ça qu'il voulait, qui est une sorte de miroir tendu aux auditeurs pour qu'ils puissent y regarder au plus profond de leur âme. Au début, c'était quelque chose qu'il voulait pas éditer, qu'il voulait pas. C'était vraiment une musique qu'il écrivait pour lui. Et puis ses amis, notamment Alexia de la Rothschild, vont dire mais tu peux pas, c'est pas possible, tu peux pas après avoir écrit ça le garder dans un tiroir. Et il s'est laissé convaincre, notamment de les faire retransmettre à la radio pour que ça puisse atteindre les gens qui étaient cloîtrés dans les hôpitaux, dans les prisons. Et c'est comme ça qu'on l'a convaincu, en lui disant que les gens qui étaient cloîtrés avaient besoin de cette fenêtre que sa musique leur apportait.
Et quel rapport, vous venez de citer Alicia de la Roche, quel rapport Mompou avait avec justement les pianistes de son temps?
Ah, il a eu un rapport, il était très, très admiré, il a participé à des masterclass, enfin ça s'appelait pas comme ça, mais c'était la même chose dans les années 60. Il était très proche d'Alicia de la Rocha, à laquelle il a dédié un certain nombre de partitions, qui a enregistré son œuvre de manière magistrale. C'était vraiment, oui, quelqu'un qui était très implanté dans la musique auprès des instrumentistes, notamment des pianistes, et aussi des sopranos, enfin, Montserrat Caballé, tout ça. C'était des gens qui appréciaient beaucoup Mompou.
Mais aujourd'hui, on a l'impression, enfin, c'est pas une impression, quand on regarde la discographie, ce sont quand même essentiellement encore des pianistes espagnols qui enregistrent sa musique. Là, on a évidemment l'exception magistrale de Volodos, mais...
Oui, j'espère que ça va...
Enfin, Jean-François Esser a fait un très beau disque.
On voit quelques frémissements, mais... il y a effectivement quelques Français, Alexandre Tarot s'y intéresse un petit peu, plus qu'un petit peu d'ailleurs, et puis il y a eu aussi Daniil Trifonov qui récemment a fait un disque autour de Chopin avec les variations Chopin de Mompou, donc tout ça c'est encourageant, et je pense que, autant il y a des musiques comme certaines airs de Falla ou d'Albéniz qui sont profondément ancrées dans l'hispanisme, autant la musique de Mompou ne l'est pas, et je pense que, enfin, ça veut pas dire que la musique d'Albéniz ne doit plaire qu'aux amateurs de l'Espagne, bien évidemment, mais je pense qu'il n'y a pas du tout cette barrière, ce frein qu'on pourrait éventuellement imaginer pour d'autres types de musique espagnole. C'est de la musique avant tout, c'est de la musique qui nous parle à nous, êtres humains. Quoi.
Et pour terminer, on a commencé par entendre justement Mompou au piano, un enregistrement donc de 1974. Je crois qu'il a enregistré l'intégrale de sa musique à ce moment-là.
L'intégrale de la musique qui était publiée à ce moment-là.
Voilà, c'est ça.
Et on a redécouvert, en fait, c'est un des rares compositeurs dont l'intégrale pour le piano est passée de 4 disques à 7 disques après sa mort.
Donc quand il entreprend cette intégrale en 1974, il a déjà 80 ou 81 ans. Comment est-ce que vous, qui avez entendu toute sa discographie, comment est-ce que vous la placeriez dans la discographie du compositeur?
Ah, c'est difficile de la comparer, évidemment. Ouais. C'est comme Rachmaninoff jouant Rachmaninoff. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que il y a cette attention au jeu de pédale qui est quand même, et puis cette attention à la sonorité, aux recherches de sonorité. Alors, évidemment, peut-être dans les années 70, s'il devrait enregistrer aujourd'hui, ça serait peut-être encore un peu plus rond. Il y a des aspects parfois un petit peu métalliques, dont on peut pas forcément savoir s'ils viennent de la prise de son ou du goût de Mompou pour les cloches. Mais, en tous les cas, cette manière de faire vivre la musique, de prendre son temps à nouveau et de d'étendre les accords et de pas d'abuser de la pédale, mais quand même d'en jouer, enfin ça c'est pas un abus parce que ça va bien avec son style de musique, mais ça je crois que c'est magistral, c'est une leçon à retenir aussi d'interprétation.
Très bien, merci beaucoup Jérôme Bastianelli. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Federico Mompou, qui vient de paraître chez Actes Sud. Et j'espère que ce livre donnera des idées aux pianistes, aux musiciens en général, et également aux directeurs de salle, aux programmateurs de festivals, que on a pu se rendre compte que c'était une musique vraiment admirable et très accessible et qui allait vraiment droit au cœur et qui était instantanément émouvante. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Dofar Guéry. Série d'attachés de production Annick Aumier. La semaine prochaine, nous célébrerons le centenaire des écoles d'art américaines de Fontainebleau en compagnie de Diana Alighetti, directrice du Conservatoire américain. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.